Michael Mango, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignant à l'ESSEC Business School, vous êtes également consultant. On va parler avec vous de psychologie des investisseurs, c'est votre domaine de spécialité. On avait parlé ensemble de ces sujets-là, vous aviez écrit un livre à cette occasion, qui avait reçu le
Effectivement,
prix Turgot d'ailleurs.
c'est vrai.
On pourrait dire qu'aujourd'hui, sonder la psychologie des investisseurs, c'est encore plus important qu'à l'époque, compte tenu de ce qui se passe sur les marchés financiers. Alors, avec ces crises, ils sont dans quel état, enfin, quelle est la psychologie des investisseurs aujourd'hui?
La psychologie de l'investisseur telle qu'elle nous est rapportée par la finance comportementale, parce que ça c'est la discipline de la finance, la partie de la finance qui s'intéresse le plus à la psychologie, montre que nos comportements dépendent énormément de notre expérience personnelle et qu'on peut être traumatisé par certains événements. Et là, des événements comme ceux qu'on a vécu entre 2007 et 2009 auront un impact, on le sait, très fort sur les comportements encore pendant longtemps. Et on a, pour le dire, on a l'expérience des générations qui ont connu des événements un peu similaires, par exemple la crise de 29. On a des très belles études académiques qui montrent que les gens qui ont connu la crise de 29 aux États-Unis, après, sont beaucoup moins exposés aux actions, même plusieurs décennies après. Beaucoup moins exposés aux actions que la génération d'avant, qui elle avait pas, savait même pas qu'il y aurait un crack, mais aussi que la génération d'après, qui le sait, mais qui ne l'a pas vécu. Et ben, il est possible que ce soit pareil pour la génération actuelle, qui aura une perception très particulière du risque sur les marchés financiers.
Alors, vous parliez de l'âge des investisseurs, c'est effectivement important. Aujourd'hui, moi, j'interroge on va dire des vieux boursiers. Alors, eux, ils racontent qu'ils ont connu des crises et des crises et des crises, et que c'est peut-être pour eux, justement, l'occasion d'investir, parce qu'ils se souviennent d'un certain nombre de crises où ils pouvaient investir. Et puis, vous avez ceux qui, finalement, ont vécu, on va dire, la hausse, uniquement la
Ah
hausse des
oui.
marchés.
Alors là, c'est tout le problème. Votre comportement va dépendre de votre expérience personnelle. Et vous pouvez, quand vous avez connu uniquement la hausse des marchés, penser à tort que vous étiez un très bon investisseur et que c'était grâce à la qualité de vos décisions que vous finissiez par avoir de super plus-values. Mais en fait, c'était juste le marché qui vous portait. Et ça peut être d'autant plus traumatisant après de subir une correction comme celle qu'on a subie pendant 2 ans. Donc effectivement, le mieux, c'est d'avoir déjà connu, d'avoir déjà la bouteille de différents environnements de marché pour savoir comment relativiser, comment savoir ce qui relève de vos qualités, ce qui relève du marché, et puis aussi pour savoir que bah, demain sera peut-être le ciel sera peut-être un peu plus bleu qu'aujourd'hui.
Alors justement, là, on pourrait dire que depuis 2008, on a crise sur crise. On a des espoirs, effectivement, qui surviennent quelques semaines, quelques mois, et puis on repart. Donc on pourrait dire que toutes les années sont difficiles parce que justement, il y a cette volatilité, cette crainte, et donc là, c'est crise sur crise, là, ce qu'on
Oui,
a.
je suis d'accord avec vous, mais je trouve que Didier, c'est très difficile pour un investisseur européen qui serait très focalisé sur les actions européennes. Là, c'est juste l'horreur depuis 5 ans, certes. Mais faut pas oublier qu'à côté des actions européennes, il y a d'autres zones géographiques et il y a aussi d'autres classes d'actifs qui n'ont pas connu cette même descente aux enfers ou ce rebond avorté, si vous voulez. Personne en Europe. N'imagine facilement que les actions américaines depuis le plus haut de 2007, donc juste avant la crise financière, sont positives aujourd'hui. Alors qu'en Europe, vous êtes à moins 40, moins 50 encore sur 5 ans. Aux États-Unis, vous êtes positif. Sur les émergents, vous êtes positif. Ce qui fait que si vous aviez une allocation d'actifs mondiale, vous seriez peut-être pas positif, mais à peine négatif. Donc il y a un problème aussi de perception. À cause de l'environnement dans lequel on est bercé, on peut avoir tendance à avoir une vision distordue de la réalité. C'est le problème. Donc crise sur crise, oui, mais en Europe.
Alors, on pourrait dire aussi que ça, c'est les économistes qui nous l'ont appris après coup. On avait parlé de décorrélation des marchés, décorrélation des économies, puis on a vu petit à petit, quand la zone euro sombrait, que les États-Unis étaient en difficulté et que les marchés émergents et les pays émergents, eux aussi, subissaient ce qui se passait dans la zone euro. La mondialisation, finalement, elle était devant nous.
C'est vrai que quand ça a baissé entre 2007 et 2009, tous les actifs risqués ont baissé. Mais on parle d'actifs risqués. Donc toutes les actions de toutes les zones ont baissé ensemble, et puis les autres classes d'actifs risqués aussi, les matières premières par exemple. Mais il y en avait à côté qui montaient. Faut oublier que l'or montait et que les obligations d'État bien notées et perçues comme sûres ont aussi monté. Donc tout le monde n'a pas baissé au même moment. Tous les actifs risqués ont baissé au même moment, et à ce moment-là, la diversification géographique n'opérait pas. Ça, c'est le cas, c'est pour la période vraiment de crise financière 2007-2009. Puis après, il y a la période depuis 2009 où c'est plus hésitant en Europe et clairement une recovery dans les autres marchés géographiques. là, on a peut-être pas une décorrélation, mais au moins des performances qui ne sont pas exactement identiques avec un décalage de plusieurs dizaines de points entre l'Europe et les États-Unis, par exemple.
Alors, peut-être ce qui a changé hein, par rapport aux dernières crises, c'est que là, on a eu une crise d'ordre systémique mondial, celle de 2008, où là, finalement, il était très difficile d'avoir un actif qui résistait, finalement. Donc, vous parlez d'allocation d'actifs, finalement, d'avoir un seul
Un
actif.
actif
Oui.
risqué qui
Oui.
résistait, mais il y en avait d'autres, des non risqués qui résistaient très bien. Le cash, les obligations et l'or, par exemple. Donc il fallait vraiment, mais ça c'est plus facile de le dire après, il fallait vraiment avoir une allocation d'actifs bien diversifiée, actifs risqués, actifs non risqués, pour réussir à faire quelque chose dans cet environnement très difficile, quoi.
On parlait de cette diversification. Si on prend un investisseur français, la logique c'est d'acheter des sociétés éventuellement qu'il connaît, s'il ne fait pas trop d'erreurs, d'acheter des sociétés françaises. Pour qu'il aille acheter des sociétés américaines, il faut déjà qu'il fasse un travail supplémentaire. Et puis alors des sociétés des pays émergents, alors si à travers des fonds d'investissement, il va falloir faire quand même une sacrée démarche pour se dire dans mon portefeuille, je vais aller mettre des actifs aussi
C'est
divers.
vrai que c'est une démarche parce que ça vous oblige à aller outre un biais psychologique très connu qui est le biais de familiarité. C'est-à-dire que quand vous êtes en France, vous êtes inondé d'informations sur les sociétés françaises et donc vous avez l'impression de pouvoir maîtriser leur destin, savoir quand les acheter, quand les vendre. Mais est-ce que c'est vraiment, vous avez vraiment ce niveau de contrôle ou c'est une illusion de contrôle parce que vous avez beaucoup d'informations? Est-ce que vous êtes vraiment, en tant qu'investisseur individuel, capable d'anticiper les tendances de marché sur votre marché national? Toutes les études empiriques montrent que non. Donc vous avez une sensation de contrôle qui est forte sur vos actifs domestiques, mais qui n'est qu'une illusion de contrôle. Donc effectivement, il faut passer outre cet instinct qui nous amène, cette tentation qui nous amène vers les actifs familiers pour se dire qu'une vraie diversification, c'est une diversification à plein d'actifs, y compris des actifs qui ne nous sont pas familiers.
Alors, on pourrait dire aussi, hein, dans les différentes périodes qu'on a traversées, les dernières années, vous avez des périodes où quelque part toutes les nouvelles sont macroéconomiques, par exemple, sont interprétées de manière négative, ou à l'inverse, on a des périodes où effectivement la moindre nouvelle, même négative, on l'ignore. Est-ce que ça aussi, c'est de la psychologie
C'est
d'investisseur?
tout à fait juste ce que vous dites, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est que vous partez avec une opinion sur quelque chose et vous allez être du coup sensible à toutes les informations qui confirment votre opinion. Et au contraire, pas du tout sensible aux informations discordantes. Donc le problème, c'est que dans un environnement morose comme le nôtre, tout le monde, ceux qui sont immergés dans cet environnement auront tendance à ne regarder et à n'aller chercher que les informations qui sont moroses. En oubliant que vous avez d'autres classes d'actifs, d'autres marchés qui fonctionnent beaucoup mieux et pour lesquels la crise de la zone euro existe, mais est beaucoup moins importante en matière d'impact sur les performances.
Alors, on connaît sur la blague, sur l'humour, le bon chasseur, ce qui distingue le bon chasseur du mauvais chasseur. On va essayer de là de ne pas faire d'humour, mais pour vous, le bon investisseur sur finalement le long terme, ce qui devrait être la ligne d'investissement sur le long terme, c'est quoi le bon investisseur? Ça va être sur le plan psychologique, quelles erreurs il va falloir qu'il évite?
Diversification, mais une bonne, diversification intelligente et pas une diversification naïve, premièrement. Et deuxièmement, ne pas essayer de faire du market timing parce que le market timing que font les investisseurs individuels est souvent pro-cyclique et finalement pas du tout performant. Donc il vaut mieux investir progressivement, par exemple avec de l'épargne programmée, et là vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur de market timing. Donc bonne diversification et pas d'erreur de market timing, à la fin vous avez des performances qui sont tout à fait honorables.
Merci Mickaël Mango d'avoir
Merci.
été avec nous enseignant à l'ESSEC Business School. Et puis on voyait qu'il y avait de l'ambiance à cette réunion Paris-Europlace avec la sonnerie pour une intervention où vous allez aller. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.